J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles le cœur.
Si je connaissais le con qui a fait ça, c'est le bon.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est là.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et bienvenue dans le royaume du cinéma cette semaine sur Radio Grand Air, notre rendez-vous ciné, 100% ciné, et ça fait du bien en tout cas d'aller dans les salles de la Brèche pour découvrir de belles nouveautés et puis surtout de passer un très très bon moment. Et avec nous, bien sûr, toujours avec nous depuis 3 ans déjà, même plus.
Je sais pas, je compte même plus les années. Et heureusement que je compte les numéros, parce que regarde, on arrive au numéro 89.
Ouais, c'est, mais je pense que c'est énorme. 3 ans, hein, bien passé en tout cas. Ouais. Bonjour Pascal.
Eh bien bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 89 d'Entracte.
Voilà, 89, et nous approchons des fêtes de fin d'année. Nous allons bien évidemment profiter de ce moment pour souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde, en tout cas, ceux qui nous écoutent, et puis de bons préparatifs, en tout cas, pour ce réveillon de Noël et puis ce nouvel an. Voilà, tout simplement. Alors, ouais. Si vous avez envie de gâter votre famille, pourquoi pas offrir un petit abonnement au cinéma, tiens, par exemple.
Absolument, ah oui, c'est vrai, oui, on peut faire ça aussi. Alors, oui, bah, pour parler des abonnements, oui, on fait une carte d'abonnement de 6 places, valable 6 mois,
ouais.
À 33 euros, ce qui nous ramène la place à 5,50 euros.
Très intéressant.
Voilà, et se profile à l'horizon la carte à 10 places. La 10 places. Alors, juste, tu vois, on parle justement de fonctionnement interne là, du cinéma, il y aura en début d'année, je ne sais pas quelle date, hein, mais une augmentation des tarifs.
Ouais.
Voilà. Apparemment, ça a été décidé au niveau de la CDC et avec le directeur d'Artec. Hein. Ouais. Donc, les places risquent d'augmenter, voilà, de 50 centimes.
D'accord.
Voilà. Bon. Pour pallier un petit peu aussi à l'augmentation, on va dire, des énergies et puis à l'augmentation générale aussi des
ouais,
produits.
Tout à fait.
Des produits annexes.
Alors Pascal, justement, à l'approche de ces fêtes de fin d'année, on va se régaler à nouveau avec, évidemment, des films qui sont toujours à l'affiche. Et puis, tu nous as fait une petite sélection cette semaine.
Oui, les petites.
Dans cette, émission, ouais. Nous allons voir le sommaire avec toi.
Alors, j'ai sélectionné 4 films. On va parler du dernier film de James Wan, Aquaman et Le Royaume Perdu. Là, on va aller dans les royaumes des super-héros.
Ouais.
On va parler aussi de la dernière comédie de Jean-Marc... de Pierre-François Martin Laval.
C'est son vrai nom, en fait.
De quoi, Jean-Marc?
Ouais. Non, enfin...
D'abord Non, Jean-Marc, c'est le nom de la marionnette. On va parler de Jeff Panaclock.
Ouais.
La poursuite de Jean-Marc. Alors, Jean-Marc, c'est le nom de la marionnette.
Ouais. Non, mais c'est ça, ouais.
Un autre film aussi assez singulier, le dernier film de Thomas Bideguin. Alors on va rentrer dans une espèce de comédie
le plus sombre.
Ils sont seuls, beaucoup plus sombre, oui. Soudain seul.
Ouais.
Soudain seul.
Ça me rappelle un film.
Oui.
Bah oui, ça me rappelle le film Seul au monde avec Tom Hanks.
Voilà, oui, on peut faire le rapprochement avec celui-ci. Oui, exact. Oui. Sauf que là, par contre, le milieu est vachement plus rude. C'est une île super froide.
Ah oui, d'accord. On va vers les pays nordiques.
Vers l'Antarctique, là-bas.
Ah oui, d'accord.
Oui. Et on va parler également du dernier film d'Alice Rowatcher, La Chimère.
Oui, on en parle beaucoup en ce moment, effectivement.
Et cette semaine, alors évidemment, pour mon personnage de la semaine, j'ai choisi Mélanie Thierry Mais on va quand même rendre un petit hommage à un acteur, un chanteur, un artiste, aussi un musicien, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, à l'âge de 86 ans. J'ai nommé Guy Marchand.
Absolument, oui, on en a parlé cette semaine en radio, effectivement, voilà, Guy Marchand nous a quittés. Et c'est une très bonne idée, en tout cas, de lui rendre hommage dans cette émission, Pascal.
Oui, mais je trouve que c'est un petit peu normal, ouais, chaque fois qu'une personne nous quitte comme ça, une personne, on va dire, du cinéma, d'aller lui faire une petite fiche et tout pour retracer un petit peu toute sa carrière, hein, tout ce qu'il a pu réaliser, parce que souvent, derrière les acteurs, on s'aperçoit que, que ces personnes-là font bien d'autres choses. Hein. Donc Guy Marchand était écrivain, il écrivait des livres aussi, hein, vers la fin de sa vie. Il est musicien, hein, il joue de plusieurs instruments. Mm-hmm. Évidemment, acteur, un peu crooner, alors évidemment, oui, tout le monde passe
à Nestor Burma.
Nestor Burma. Mais quand je passe par le chanteur, c'est tout le monde pense au morceau, au destiné.
Et oui, dans Les Bronzés.
Dans Les Bronzés.
Je crois que c'est Les Bronzés en vacances, me semble-t-il.
Alors moi, on en reparlera tout à l'heure, mais destiné, moi, je l'ai entendu dans un autre film.
D'accord.
Avec une scène bien particulière.
Très bien.
Donc voilà, donc Guy Marchand, hein, qui nous a quittés il y a très peu de temps.
Hein. Voilà, et on aura aussi une pensée à Claude Villers, hein, qui nous a quittés aujourd'hui.
Exact, en fait, oui, j'ai vu ça.
C'était quelqu'un qui était un homme de radio et aussi une voix de...
Oui, une voix.
Une voix de, on va dire, de cinéma, mais surtout de théâtre ou de scène en extérieur, puisque c'est lui qui avait réalisé notamment la voix de la bataille de Castillon.
Exactement, oui, oui, c'est quelqu'un qui est venu se réfugier un petit peu là, ici, par chez nous. On le voyait, alors moi je le croisais régulièrement au marché de Sainte-Foy. Enfin, pour lui, c'était une institution, et puis il habitait Pessac.
Exactement, Pessac-sur-Dordogne.
Pessac-sur-Dordogne, oui, où il avait sa maison, et puis apparemment, d'après ce que j'ai compris, il a terminé dans une maison de santé. Alors, on nous dit dans le papier de Sud-Ouest qu'il a terminé dans une maison de santé à côté de Mussidan. Mais c'est le château de Bassy, justement, qui accueille un petit peu comme ça des personnes âgées. Voilà, qui est un très bel établissement. C'est dans un château.
Ah, il y a eu déjà des soucis de santé il y a pas mal d'années. Je crois qu'il avait fait un AVC.
D'accord.
Et il s'était un petit peu retiré, justement, de ce monde de radio et de médias.
Oui, après une carrière bien remplie, hein, mais c'est lui qui a animé le tribunal...
Des flagrants délires.
Ah, c'est ça.
Des flagrants délires.
Des flagrants délires, oui, c'est ça. Oui, ça, c'était une vieille émission.
Dans les années 70,
c'est
70.
Ça. Oui, parce que je sais que, bon, mes parents écoutaient beaucoup la radio, parce qu'on regardait beaucoup moins la télé à cette époque-là. et effectivement, j'avais entendu plusieurs de ses émissions, et c'est ce que je retenais un petit peu de Claude Villers. Hein. Il me semble qu'il écrivait aussi, non ?
Absolument, oui. Ouais. Mm-hmm.
Donc voilà, grosse carrière de Claude Villers.
Alors on va commencer cette première partie de l'émission, Pascal, avec ta première sélection cette semaine à la brèche.
On va parler de l'Aquaman et le Royaume Perdu, donc la dernière création de James Wan, un film américain de 2h04, action, aventure, fantastique. Hein. Alors évidemment, on va repartir de l'univers des super-héros. Alors l'Aquaman, ici, c'est le deuxième volet. Hein. Il y a eu déjà un Aquaman en 2018.
Ah oui.
Oui.
Qui s'appelait Aquaman aussi.
Aquaman, tout court.
Ah bon.
Là, c'est le numéro 2, il s'appelle Aquaman et le Royaume Perdu.
Hein. Ah oui, d'accord, il y a une suite. Ouais.
Et James Wan a réalisé aussi, juste pour vous donner une idée un petit peu de qui est ce personnage-là, ce réalisateur, en 2016, il a réalisé Conjuring 2. Mm-hmm. Et en 2015, Fast and Furious 7.
Ah oui.
Et oui, tu vois, donc c'est quelqu'un qui réalise un petit moment, quoi. Au niveau des acteurs, on va retrouver Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, qui a fait parler d'elle il n'y a pas très longtemps, entre parenthèses, non ? Tu vois pas qui c'est ?
Tu l'as sous les yeux.
Amber Heard, oui. Non, mais elle était super énervée il n'y a pas très longtemps. Elle était dans un procès qui a duré très très longtemps. C'est l'ancienne petite amie de Johnny Depp.
Ah d'accord.
Tu vois pas un peu le procès, il a duré très très longtemps. Oui. D'ailleurs, je pense qu'elle a perdu. Hein.
Ouais.
On va retrouver aussi Yahya Abdul-Martin, Nicole Kidman...
Voilà, qui a pris les cheveux gris. Hein, mais...
Un petit peu, oui, pour les besoins du film.
Voilà.
Dolph Lundgren, Temuera Morrison et Jenny Zhao. Alors, James Wan et Jason Momoa reviennent donc pour une expérience cinématographique spectaculaire dans Aquaman et le Royaume Perdu. Alors, Black Manta, toujours hanté par le désir de venger son père, est maintenant plus puissant que jamais avec le légendaire trident noir entre ses mains. Pour l'anéantir, Aquaman doit s'associer à son frère, homme ancien roi Atlantide et actuellement emprisonné. Ensemble, ils devront donc surmonter leurs différences pour protéger leur royaume et sauver le monde d'une destruction universelle. Et oui, à chaque fois, il faut vraiment sauver la planète.
C'est très important. Ouais.
Sinon, on serait mal.
Heureusement qu'on est super-héros.
C'est la seule qu'on est. Donc Aquaman et le Royaume Perdu et la suite d'Aquaman sortie en 2018, Jason Momoa reprend donc le rôle du super-héros entouré entre autres d'Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, présents eux aussi dans le premier volet. James Wan est lui aussi de retour derrière la caméra. Le premier film, alors le chiffre est quand même assez astronomique, le premier film avait rapporté 1,15 milliard de dollars, ça cartonne, hein, de recettes, hein, pour un budget de 160 millions de dollars, ce qui n'est pas beaucoup. D'habitude, tu as des budgets à 300 millions, tu vois, là, 160 millions de dollars de budget, c'est quand même assez réduit, hein, je trouve. Hein, et, donc ça fait un bon rapport, un bon ratio. Donc le scénario est signé David Leslie Johnson McGoldrick sur une histoire originale de James Wan. David Leslie Johnson McGoldrick, Thomas Pacibet et Jason Momoa. Donc ce dernier a pitché en 2018 une idée de suite pour Aquaman expliquant le fait qu'il soit crédité en tant qu'auteur. Le comédien est particulièrement fier de cet accomplissement, comme il l'avait expliqué sur la scène de la convention CCXP au Brésil. Et comme il nous dit, il y a beaucoup de choses que l'on veut faire et accomplir en tant qu'acteur, pour les fans et pour soi-même. Lorsque nous avons terminé le premier film, j'avais beaucoup d'idées. J'ai commencé à les mettre par écrit. Puis nous avons eu une réunion avec DC Warner et James Wan. Je n'avais jamais fait cela auparavant. J'ai présenté ma propre idée, mais je me suis dit, ils ne peuvent pas me faire de reproches parce que j'aime ce personnage et j'incarne depuis si longtemps. Voici quelques idées que j'aimerais mettre en œuvre. Et comme il nous dit, ils ont très bien réagi et James a aimé beaucoup d'idées qu'ils ont ensuite exploitées et portées à un autre niveau. Alors il existe dans Aquaman 7 royaumes d'Atlantis. Donc Atlantis, Sébel, le royaume des pêcheurs, le royaume de la tranchée, le royaume de la saumure, le royaume des déserteurs, il y a de quoi s'y perdre, et le royaume perdu, alias Necrus. Au sujet de ce nouveau décor, James Wan déclare « L'Antarctique composait un paysage familier et enthousiasmant où la plupart d'entre nous ne nous sommes jamais rendus. C'est ce qui m'a permis d'explorer une version sublimée de cette contrée. J'étais heureux de créer ce royaume qui est un tout nouvel élément visuel du film, aux côtés d'autres nouveaux mondes. Il faut bien dire que ce ne serait pas un film de mon cru sans les créatures qu'on croise habituellement dans mon cinéma, si bien que le spectateur en découvrira ici de nouvelles plus terrifiantes que les précédentes. Eh ben, accrochez-vous au siège, hein, ça va déménager. Hein. Donc bien qu'Aquaman et le Royaume Perdu soient un film de super-héros, cela ne m'a pas empêché, James Wan d'y insuffler des éléments de son genre de prédilection comme l'horreur. Ainsi, il a cité dans une interview donnée à Total Film La planète des vampires de Mario Bava comme principale source d'inspiration de son film. Sorti en 65, le long métrage italien nous entraîne sur une planète inconnue où certains astronautes sont pris d'une rage homicide dans une atmosphère irrespirable. Et moi, je suis bien content qu'il s'inspire du cinéma italien des années 65, c'est vrai, c'est pas con quand même.
Un joli clin d'œil, oui.
Donc l'inspiration se fait particulièrement sentir pour le gigantesque vaisseau sous-marin de Manta et les uniformes de sa bande de mercenaires. Alors la sortie, elle a été repoussée. Au début, elle était initialement prévue le 14 décembre 2022. Alors tu vois, déjà, on approche de 2024. Et oui, parce que pourquoi? Parce qu'ils étaient face à Avatar, la Voix de l'eau.
Ah oui, donc et, ça fait une sacrée concurrence.
Je peux te dire que là, quand ça sort, ce film-là, tu te gares sur le côté quand même, tu laisses passer. Ouais. Finalement, il a été reporté une première fois au 15 mars 2023, avant d'être redaté donc au 20 décembre. Une date finale qui a toutefois failli être une nouvelle fois modifiée en raison de la grève des acteurs. Et oui, il y a une petite crise quand même, hein, là, au niveau de Hollywood.
Je m'en rappelle,
oui. Oui, menée par la SAG AFTRA, donc Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists. Oui, c'est un gros syndicat. Et oui, mais pourquoi? Mais ils n'étaient pas contents, les gars, parce qu'apparemment, ils partageaient très mal le gâteau. C'est vrai que tout le monde se sert un petit peu, et ils étaient un petit peu délaissés derrière, alors qu'évidemment, c'est tous ces créateurs, ces scénaristes et tout, bah, ils travaillent dur aussi, hein, faut pas oublier. Hein. Donc, évidemment, il était question d'Amber Heard, voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, l'ancienne compagne de Johnny Depp. Donc, suite à son procès ultra médiatisé contre son ex-mari Johnny Depp, la participation d'Amber Heard à Aquaman et le Royaume Perdu a failli être annulée. Plusieurs fans de la star de Pirates des Caraïbes ont en effet multiplié des pétitions pour que la comédienne soit renvoyée de la suite. Oui, elle n'était pas contente du tout. En juillet 2021, au micro de podcast Deadline Hero Nation, le producteur Peter Safran avait balayé d'un revers de la main cette demande. Et comme il nous dit, je pense que nous ne réagirons jamais à ce qui est, à mon sens, de la pure pression de fan. Notre but est de faire ce qui est le mieux pour le film. Et nous avons pensé que si cela devait être avec James Wan et Jason Momoa, ce serait aussi avec Amber Heard. Cependant, la principale intéressée a fait entendre une autre son de cloche en mai 2022 lors du procès qu'il a opposé à Johnny Depp. Et comme elle nous dit, je me suis battu pour rester sur ce film. Il ne voulait pas que j'y participe. On m'a donné un scénario, puis différentes versions où des séquences d'action avaient été retirées. Sans trop spoiler, deux personnages devaient en affronter un autre. Dans les nouvelles versions, mon personnage faisait moins de choses. Ils ont retiré pas mal de choses. Lors du même procès, le président de la DC Films, invité à témoigner, a bien reconnu que l'actrice avait failli être remplacée, mais non pas à cause de la pression de certains fans, mais en raison d'un manque d'alchimie avec son partenaire à l'écran, donc Jason Momoa. Alors le chef costumier Richard Sale a effectué plusieurs ajustements sur le costume légendaire d'Aquaman mis au point pour le premier opus. Pour rester fidèle au style d'origine, il a cherché à intégrer des matières plus légères et à faire en sorte que la tenue soit plus facile à porter pour Jason Momoa, notamment pour les scènes de cascade et de combat. Et oui, il faut une sacrée combinaison pour ça.
Que ça soit, oui, effectivement souple.
Et oui. Donc la combinaison verte et or d'Aquaman comporte un si grand nombre d'écailles qu'il a fallu 3 mois à 3 artisans différents pour mettre au point chaque écaille et la fixer sur le costume. C'est énorme quand même. Donc, le département accessoires a envisagé une quinzaine de versions de trident avant d'identifier celle qui convenait à Aquaman. Il y a eu 3 déclinaisons du trident doré d'Arthur, une version en aluminium fabriquée en usine, plusieurs exemplaires en fibre de verre et d'autres en caoutchouc et en mousse pour les cascades. Dans tous les cas, les tridents enfermaient un noyau de fibre de carbone pour des raisons de solidité et de durabilité. Pour les scènes d'action les plus intenses, de simples tubes en fibre de carbone remplis de mousse se substituaient au trident. Et il faut pas quand même se piquer les fesses avec, parce que ça va faire mal. Alors pour tourner les scènes sous-marines du premier film, l'équipe avait utilisé des plateaux équipés de fond bleu et suspendu les acteurs grâce à des harnais et donnant l'illusion qu'ils flottent. Pour cette suite, l'équipe effet visuel a adopté une toute nouvelle méthode afin que les acteurs et les réalisateurs se sentent plus libres grâce au A-Line Studio, une toute nouvelle technologie révolutionnaire. James Wan et son propre équipe ont pu créer un univers aquatique à 360 degrés. Oui, parce que c'est quand même pas simple hein, d'imaginer un petit peu les fonds marins comme ça, en studio. Mm-hmm. Donc l'A-Line Studio utilise une cabine circulaire spécialement créée à cet effet, munie de 136 caméras installées du sol jusqu'à hauteur d'yeux qui scrutent l'acteur. Celui-ci en costume joue la scène au centre de la cabine en portant un bandeau bardé de capteurs qui permet, grâce aux effets visuels, de créer la sensation que les cheveux flottent dans l'eau. Les images ont ensuite été intégrées aux scènes tournées sur fond bleu et assemblées soigneusement aux avatars, décors et créatures marines générées de manière infographique. Donc, tandis que Black Manta et le Dr. Shin cherchent à s'emparer des technologies d'Atlantis, ils s'aventurent en Antarctique. Voilà, on va changer un petit peu de décor. Hein. Pour reconstituer l'Antarctique en plein été dans les studios de Levensden, le département artistique a créé une toundra recouverte de givre sur 2 plateaux et sur le plateau extérieur. Un champ de glace a été construit qui accueille les tentes et les véhicules du camp de base de Manta, tandis que des ventilateurs géants envoyaient de la neige sur le décor. Pendant le tournage, en raison d'une pénurie de cire utilisée pour la glace dans tout le Royaume-Uni, et oui, parce que c'est quand même pas de la glace, c'est quand même un peu sensible, l'équipe d'effets spéciaux a dû dévaliser le supermarché suédois du coin pour acheter... Pour acheter quoi ? Des centaines de bougies blanches.
D'accord.
Qu'ils ont dû dévaliser, oui, mais effectivement. Des bougies blanches. Voilà, pour vous donner un petit peu...
Effectivement.
Quelques idées un petit peu sur tous les efforts qui ont été déployés pour filmer ce dernier opus d'Aquaman. Donc, et le Royaume perdu.
On est loin, effectivement, des prouesses cinéma de l'époque, avec Kevin Costner dans Waterworld, où justement un simple maillot de bain suffisait pour...
Oui.
Pour parcourir les océans.
Ouais, par contre, je sais pas où ça a été tourné, par contre. À quoi ce film-là ?
D'accord.
Avec Kevin Costner. Par contre, je sais pas trop.
Ah non, mais oui, parce que c'était toujours sur l'eau, en fait.
Ah oui, absolument.
C'était le Mad Max, ouais. Mais de l'eau.
C'est du Mad Max, ouais, aquatique.
Aquatique.
Exact. Ouais.
Voilà, donc on vous recommande, si vous êtes fan justement de ces films de science-fiction à la fois
fantastique
et fantastique, eh bien, allez-y.
Voilà, ça sera à découvrir en sortie, voilà, sortie nationale.
Voilà, Aquaman et le Royaume perdu. Qu'on se dise, c'est la suite.
À découvrir la brèche, oui, deuxième opus.
Alors on va revenir à un autre rendez-vous tout à fait plus léger. Et je crois que c'est on va dire, la première tentative... de Jeff Panaclock, hein, qui, sur les écrans, vient nous sortir un film, en fait, voilà, avec sa marionnette Jean-Marc. On va passer un petit moment sympa.
Voilà, sous la houlette de Pierre-François Martin Laval.
Ouais.
Alors, c'est pas son premier film. Hein. En 2017, il a réalisé Gaston Lagaffe.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Tu vois, en 2015, Les Profs 2. En 2013, Les Profs. Et en 2023, évidemment, il a sorti donc, les Vengeances de Maître Poutifard. Donc, Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc. C'est un film français d'1h30, et évidemment, c'est une comédie. Bon, alors, au niveau des acteurs, qui va-t-on retrouver?
Ah ben, pas Jeff Panaclock.
Jeff Panaclock lui-même.
Et Jean-Marc.
Alors, il n'est pas trop dans les acteurs, Jean-Marc. Ben, évidemment, qui est-il, Jeff Panaclock? C'est un ventriloque, un marionnettiste. Mm-hmm. Voilà, qui œuvre apparemment sur la télé dans des émissions, me semble-t-il. Hein. Mm-hmm. Parce que moi, je ne regarde pas trop la télé, donc alors,
il a commencé très jeune. Hein. En fait, on le voit à la télévision, tout petit, faire des radio-crochets, chanter un petit peu.
D'accord.
Enfin bon, voilà, il tâtonnait un petit peu avec la scène. Mm. Puis je pense que bon, ce don n'est pas donné à tout le monde. Hein. Les ventriloques,
non, en plus, ils sont pas nombreux.
C'est très technique.
Hein. Oui. J'en voyais de temps en temps, oui, qui faisait des petits spectacles comme ça à la télé, mais il n'avait pas beaucoup. Donc, au niveau des acteurs, on va retrouver Jeff Panaclock, Nicolas Marié, Théodore Leblanc, Mathias Mine, Claude Perron, j'aime beaucoup,
ouais.
Et Sarah Fitry. Alors James, c'est l'histoire de Jeff qui est un homme calme et un peu candide qui croise la route de Jean-Marc, un singe en peluche, tout juste échappé d'une base militaire. Particularité, cette peluche est vivante. Jean-Marc, sans gêne et sans filtre, embarque alors Jeff dans une aventure déjantée. Entre course-poursuite, rire et situation loufoque, rien ne va se passer comme prévu. Alors rien qu'au niveau du scénar, ça fait penser à un scénario de film américain.
Ah d'accord.
Ça me fait penser à Paul. Tu connais pas trop ce film-là. Il est passé relativement inaperçu en France. Moi, je l'ai bien aimé. Alors par contre, là, c'est pas une marionnette. Hein, c'est vraiment un personnage de synthèse. Mais en fait, c'est un extraterrestre qui s'échappe de la zone 51.
D'accord.
Et qui est récupéré par deux geeks. Deux geeks anglais qui font leur voyage, la traversée on va dire, de l'Arizona, et qui vont sur des sites mythiques autour de la zone 51, comme l'endroit où il y a la boîte aux lettres qui célèbre, et puis il y a tout un tas d'hôtelleries qui sont dédiées justement aux extraterrestres en forme de soucoupe et tout. Et voilà, ça me fait penser à Paul. Et évidemment, Paul, pareil, lui, il est recherché évidemment par l'armée, les services de renseignement, tout ça. Et ça me fait penser un petit peu à ça. Sauf que là, évidemment, c'est la version française, c'est un produit bien de chez nous. Donc voilà, ça sera vraiment à découvrir donc à la brèche cette semaine.
Alors quand on regarde un petit peu le teaser, on va l'écouter dans quelques secondes, Pascal.
Ouais, parce que moi j'ai vu la bande. Ah oui, parce que
la bande annonce, oui, effectivement. Oui, moi, ce qui m'a surpris au début, c'est que en fait Jean-Marc, qui est toujours lié à son ventriloque, ouais. En fait, il est détaché du ventriloque. On le voit tenir la main, il marche, il est carrément autonome. Il est autonome.
Oui.
C'est ça qui est sympa. Et pour revenir justement au célèbre ventriloque, j'ai retrouvé Michel de Genève, voilà. Dans Tataillot.
Tu vois, je pensais à lui.
Tataillot.
Alors oui, vraiment, il a bercé notre enfance. Hein. Et c'est un super ventriloque. Comment tu l'appelles, Michel?
Michel de Genève. Voilà, c'était un. Voilà, un artiste complet, hein, qui avait vraiment du talent et,
ouais,
on aime bien ça.
Mais tu crois qu'il cartonnait sur les plateaux de Jacques Martin
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'était quoi, les années 80, ça, les années 70?
Ouais, c'était 80. Les années 70 et 80, ouais, ça. Absolument. Ouais.
C'était un grand artiste. Hein.
Voilà, puis on a eu Jacques Courtois bien avant, mais le plus connu, effectivement, c'était Michel de Genève avec Tataillot. Voilà, c'était de nounours, là.
Et c'est ça.
Avec une voix très, très particulière, ouais. En tout cas, et franchement, ouais, on adore.
Oh, c'était chouette.
Voilà, donc c'est un moment plutôt agréable de retrouver effectivement ces artistes, hein, au cinéma, parce que c'est pas évident d'adapter effectivement... ces artistes, ces poupées, parce que ça demande quand même un entraînement et c'est pas forcément évident. On va écouter un extrait, Pascal, et on se retrouve juste après.
Trois tentatives d'évasion. On ne prend plus aucun risque. Ouvrez le caisson.
Salut les trous ducs. Il s'est échappé. Attrapez-le. Je veux toute l'armée sur le coup.
Il n'y a rien, mon lieutenant.
Allez, on continue.
Il cherchait quoi?
Bah moi, du con. Pète un coup, tu vas clignoter.
T'es qui, toi? Tu viens d'où?
Ok, je te la fais courte. Alors moi, c'est Jean-Marc. On m'a capturé et là, il parle de me disséquer.
T'inquiète pas, je vais t'aider. Allez, viens, je vais te cacher chez ma grand-mère.
T'es sûr qu'elle va pas nous faire un AVC, la vieille, en me voyant?
T'inquiète, elle voit plus très bien.
Eh non, merci, ça me fait pisser.
Y'a des trucs qui se font pas en société, y'a des règles, des bonnes manières.
Quoi? Non mais c'est quoi ce boule?
T'as dit quoi, toi?
Moi, rien du tout.
Je t'assure, j'arrête les conneries, je vais me calmer. Non mais quel cul!
C'est mon neveu, il est un peu...
Beau gosse?
Mal poli.
Où est le singe?
Elle va jamais nous lâcher, Jeanne d'Arc! Allez, allez, vas-y, s'il te plaît, laisse-moi conduire, là! Oups!
Moi, c'est Samantha. Et je vais bien m'occuper de votre engin.
Et du mien aussi?
Quoi?
Hey!
Faut qu'on se tire d'ici le plus vite possible.
Ok, t'as un plan? Ton plan, c'est de faire une tête de con.
Voilà, on va rigoler, on va passer un moment sympa. Bon, les dialogues restent
tout à fait
accessibles.
Hein. Moi, j'ai bien aimé, franchement. Moi, j'ai
on va
bien
rigoler.
Aimé
on va rigoler.
Le film, non, j'ai bien aimé le dynamisme, un petit peu de la comédie. Puis c'est fait pour rire, puis on en a tous besoin en ce moment.
Exactement, voilà, c'est ça tombe bien. Hein, pour,
voilà, c'est grand public. C'est grand public, à mon avis, voilà, ça va être un petit moment, un bon moment à passer au cinéma pour toute la famille. Voilà, c'est ça qui est chouette.
Voilà, puis ça va forcément durer 1h30, donc c'est pas trop long, on va pas décrocher, et puis on va ressortir avec le sourire.
Ouais, puis alors je sais pas comment il va se comporter ce film-là, mais bon, je pense que ça va fonctionner, fonctionnera ce film-là, justement, parce que c'est les gens qui sont quand même assez demandeurs de ce genre de comédie, et puis en plus ils connaissent tous le personnage, puis en général, Martin Laval, ça va, il maîtrise quand même son sujet, hein. Il a fait quand même plein de films qui ont fonctionné, donc... Donc oui, j'espère qu'il aura une bonne carrière.
On lui souhaite en tout cas. On va changer totalement de direction, on va aller faire de la navigation, on va partir sur les flots et on va se retrouver sur une île. Voilà.
Il fait froid.
Il fait froid.
Oui.
Pensez quand on fait de la navigation de partir couvert.
Alors on est loin du film de Tom Hanks qui était...
Oui, Seul au monde.
On est loin de Robinson Crusoe, on est loin de toutes ces versions un petit peu exotiques, à manière de l'isolement par accident sur des îles complètement paumées au milieu des océans. Là, franchement, c'est encore plus dur parce que là, on est en Antarctique.
Ouais.
Il fait très froid, on n'a pas droit à l'erreur, là. C'est-à-dire qu'il faut lutter, il faut vraiment lutter contre les éléments, hein. Soudain seul, donc le dernier film de Thomas Bideguin, un film le film il est franco-américano-belgo-islandais.
Ah oui.
D'1h51, donc c'est un thriller romance, hein, de Thomas Bideguin. Alors au niveau des acteurs, c'est tout simple. Il n'y en a que deux.
Ah, c'est un huis clos?
Presque. On va retrouver Gilles Lelouch et Mélanie Thierry. Point.
Ah, ça va faire long.
Et oui. Donc en couple depuis 5 ans, Ben et Laura ont décidé de faire le tour du monde en bateau. Avant d'atteindre l'Amérique du Sud, ils font un détour vers une île sauvage près des côtes antarctiques. En pleine exploration, une tempête s'abat sur eux et leur bateau disparaît. Éloignés du monde, seuls face au danger et à l'hiver qui approche, ils vont devoir lutter pour leur survie et celle de leur couple. Alors, au niveau de la naissance du projet, donc en faisant Les Cowboys en 2015, son premier long métrage qui comprenait beaucoup de décors et de personnages, Thomas Bideguin avait envie de traiter du sujet de l'intimité dans sa nouvelle réalisation. Le metteur en scène cherchait une histoire qui se déroulerait dans un lieu unique avec un seul personnage, ou peut-être deux. Et il se souvient. J'étais fasciné par le design des bases scientifiques de l'Antarctique. Et puis en écoutant un podcast de l'émission Le Masque et la Plume, où il était question du livre d'Isabelle Autissier, soudain seul, quelque chose m'a frappé. J'ai été tout de suite séduit par la clarté de sa proposition. L'histoire d'un couple pris au piège sur une île déserte. une proposition qui permettait d'envisager un film à la fois très intime et très large. J'avais envie de raconter le destin des personnages ordinaires qu'on va lancer dans une aventure extraordinaire. À eux ensuite de se dépasser pour être à la hauteur de cette aventure. La lecture du livre d'Isabelle a confirmé cette intuition, ce désir de faire un film d'aventure, un grand spectacle, mais sur un couple, sur deux personnages, plongés dans une intimité forcée et absolue. Alors pourquoi un couple ? Alors il y a peu de films d'aventure sur et avec un couple déjà constitué. Ce qui était compliqué pour Thomas Bideguin était de construire leur passé. Et comme il nous dit, parce qu'il y a des films de rencontres d'individus que tout oppose, qui se retrouvent plongés dans une aventure ensemble et qui s'embrassent à la fin du deuxième acte. Là, c'est différent. Quelque chose peut-être d'un peu plus mature. Parce que l'histoire d'un couple pose la question, la seule qui soit intéressante. Comment est-ce qu'on remet le couvert ? Comment est-ce qu'après un certain nombre d'années, on peut redistribuer les cartes ? L'aventure dans laquelle ils se sont précipités ? L'état de nature dans lequel ils sont plongés permet de questionner leur position respective à l'intérieur du couple. La place que chacun s'est assignée et les rapports de force qui se sont institués. Il n'y a plus de filtre, plus d'échappatoire. Une situation de survie impose le mouvement. Et c'est vrai que là, vraiment, les conditions sont vraiment, vraiment extrêmes. On est loin des cocotiers. Hein. Donc, Lille constitue le troisième personnage du film. Tout comme Ben et Laura, elle aspire. Elle respire, elle a ses accès de colère. Elle donne et elle reprend. Assez vite, ils se rendent compte que l'île est bien plus grande qu'ils ne l'imaginaient. Elle n'est plus qu'un point sur une carte, elle prend vie. Elle est la nature, la puissance vengeresse de la nature. Au début du film, Ben et Laura entendent des baleines. Depuis leur bateau, ils les entendent mais ne les voient pas. Ils les cherchent, tournent le gouvernail dans un sens ou dans l'autre, raconte Thomas Bideguin en poursuivant. Et c'était pour nous l'écriture, comme si les baleines les guidaient vers l'île. On les retrouve aussi un peu plus tard dans le film quand ils sont pris dans les vagues. Ben se retrouve sous l'eau. Il entend à nouveau le sifflement des baleines. Elles lui disent « Vous êtes chez nous maintenant. » Alors, c'est vrai que ça ne m'étonne pas parce que on doit vraiment les entendre dans la cale d'un bateau.
Ah mais c'est ça.
Parce que je crois qu'elles communiquent à des dizaines voire des centaines de kilomètres, hein, sachant que l'eau quand même est un super vecteur du son. Hein. Moi, je sais qu'il m'est arrivé de traverser le golfe de Gascogne et à un moment, j'entendais un bruit qui était récurrent et je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est les dauphins.
Ah oui, c'est pareil, les dauphins.
Le sifflement des dauphins, tellement aigu, c'est tellement aigu que tu l'entends dans le bateau. Et effectivement, je suis sorti sous le pont et on était au milieu d'un groupe gigantesque. Il y avait peut-être 40 ou 50 individus qui étaient en train de croiser un petit peu au large. Là. Et ils sont venus nous faire un petit coucou. C'était vraiment super.
Ouais,
hein.
C'est sympa, ouais.
Et oui, les cétacés, les mammifères marins, on les entend vraiment, vraiment de très, très loin. Quoi. Alors pourquoi le froid ?
Et oui, pourquoi le froid ?
Alors Thomas Bideguin a opté pour un cadre spatial faisant la part belle au froid pour plusieurs raisons. D'abord, dramatiquement, les températures froides réduisent les ressources des personnages, ce qui tend considérablement les choses entre eux. Mm-hmm. Oui, parce que c'est dur, il faut d'abord lutter contre les éléments.
L'hiver approche. C'est la survie.
L'hiver approche, il les emprisonne et les pousse à agir. Quand on va dans le froid, tout devient plus sérieux, plus mystérieux, aussi à mesure que la faune et la flore disparaissent. Il y a aussi quelque chose de nu que provoque le froid. Une île froide, c'est pour moi une île nue. Qui met à nu les deux héros. Il y a quelque chose d'insidieux dans le froid, il y a quelque chose de plus dramatique. Le froid, il vient nous empêcher d'agir, précise le cinéaste. Et oui, tout devient quand même bien plus compliqué. Alors, Soudain Seul devait être tourné avec Jack Glyn Hale et Vanessa Kirby.
Et oui, effectivement, ça a eu petit changement de casting.
On a découvert il n'y a pas très longtemps. Oui, mais quand... Vanessa Kirby, vous avez tous vu, une bonne partie des spectateurs l'ont vu dans Napoléon.
Absolument.
Oui, ouais. C'était Joséphine de Beauharnais et Vanessa Kirby. Qui d'ailleurs, comme je l'ai dit, a vraiment crevé l'écran
dans le
film de Ridley Scott. Hein. Donc Vanessa Kirby donc dans les rôles principaux. Le projet s'appelait Suddenly. Finalement, ce sont Gilles Lelouch et Mélanie Thierry qui les ont remplacés en raison de divergences artistiques entre l'acteur américain qui devait d'ailleurs produire le film et Thomas Bideguin. A noter que Thomas Bideguin a déjà collaboré avec Glyn Hale sur le western de Jack Audiard, Les Frères Sisters, en 2018. Et le scénariste a écrit le long métrage en compagnie du célèbre réalisateur d'un prophète. Et l'acteur y campait l'un des quatre personnages principaux aux côtés de John C. Reilly, Joaquin Phoenix et Riz Ahmed. Donc Soudain Seul est un survival movie répondant aux codes du genre. Il va falloir pour les deux héros chasser pour se nourrir et revenir à des sensations plus primitives. La question de la survie du couple vient s'ajouter à celle de la survie des personnages. Il y a un nouvel équilibre qui se crée entre le couple et la nature, mais aussi au sein du couple lui-même. Le rapport de force entre Laura et Ben est amené à évoluer. Cette épreuve est aussi pour eux une opportunité extraordinaire de se retrouver. Parfaitement à égalité, solidaires, confie Thomas Bideguin. Alors côté image, Thomas Bideguin voulait quelque chose de naturel, beau, sans pour autant être esthétisant. La lumière polaire devait paraître sublime la première fois que les personnages la voient, car ils sont des touristes qui visitent une île. Et le réalisateur ajoute « Cette sensation de splendeur vit radicalement quand ils en deviennent prisonniers. » Nicolas Loire, le chef opérateur, est un passionné, un artiste et un collaborateur infatigable. Il a su tirer parti de ces couleurs froides, de ces paysages minéraux, de cette luminosité étrange et inhospitalière. C'est aussi la lumière d'un soleil presque blanc. C'est en Islande que nous avons trouvé cet univers visuel perturbant, ce soleil presque blanc, cette luminosité qui se rapprochait de celle de l'hémisphère sud où il était trop difficile d'aller tourner. Parce que voilà, bonjour, et bonjour les conditions climatiques. Il faut savoir que l'électronique ne fait pas beau ménage avec le froid intense.
Ah oui, c'est vrai.
Et tout qui se fige. Hein. Moi, je lisais beaucoup de Baplard sur des gens qui allaient faire un petit peu de la photographie animalière, comme je faisais avant, et qui allaient, on va dire, sur le cercle polaire. Voilà, et t'avais intérêt à anticiper, on va dire, ce genre de grippage. Alors, Thomas Bideguin, le chef opérateur, ont tourné le film sur des terrains vierges en Islande et en Bretagne pour les scènes en mer. Tout ce qui apparaît à l'image a été dessiné, construit et transporté pour les besoins du tournage. Par exemple, la base baleinière en ruine et la base météo que l'on voit à la fin. Il a fallu construire les ruines de la base baleinière, le ponton, etc. Ramener dans des endroits reculés des machines qui pèsent des tonnes. Tu vois un peu le chantier. Tout cela en s'adaptant à la géographie comme à la météo. Nous avons tourné dans des paysages hostiles où le vent, le froid, le sable qui nous fouettait le visage, tout semblait nous dire « Partez ». On vous accorde 3 heures pour faire ce que vous avez à faire, mais vous n'êtes pas les bienvenus ici, se rappelle le metteur en scène. Et oui, c'est super inhospitalier. Hein. Donc dans l'une des premières séquences, on entend une baleine, mais on ne les voit pas. Elle est là pourtant, dangereuse et fascinante. Et comme il nous dit le réalisateur, c'est le retour de l'instinct animal. Laura et Ben sont des personnages aux aguets. Ils sont dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'être sauvés. Ils se sentent en danger permanent sur cette île. Ils sont donc à l'affût du moindre bruit. Ils guettent toutes les palpitations de l'île. Que ce soit le bruit de la pluie sur la tôle, le ressac de la mer, tout est très sonore. Donc effectivement, le travail du son a été primordial pour faire vivre l'île. Mais le goût de la nourriture, le froid, les odeurs dans un film de survie, tous les sens sont convoqués, explique Thomas Bideguin. Alors, Soudain Seul est un film de gestes, un film de bricolage. Rien n'est donné aux deux personnages échoués sur ce territoire hostile. Ils doivent tout fabriquer pour répondre à leurs besoins. Tout le long du film, on assiste ainsi à une sorte de retour vers des gestes et des sensations élémentaires. Thomas Bideguin donc nous confie « S'ils veulent manger et survivre, ils doivent d'abord façonner des objets en récupérant toutes sortes de matériaux. » Et oui, il faut tout inventer, les casseroles, machin, les instruments de pêche, de chasse. Or, ce sont des gens ordinaires, comme vous et moi, pas du tout préparés à ce qu'ils vont devoir affronter. On a fait avec l'équipe déco et les accessoiristes un gros travail autour de ça pour inventer des outils susceptibles d'être fabriqués par ces deux héros ordinaires, en partant d'objets récupérés. Donc ils doivent réinventer la bougie, réinventer le harpon, réinventer la canne à pêche. Tout doit être réinventé, comme le couple doit se réinventer à partir de quelque chose qui existe déjà. En débarquant sur cette île, ils sont comme devant une page blanche. C'est pour cela que la caméra est en permanence à leur hauteur. On découvre les choses avec eux, comme eux. On les voit résoudre les problèmes un à un. Il fallait donc toujours penser et filmer à la hauteur des personnages, mais aussi à leur rythme, à leur vitesse. Quelle prouesse.
Oui.
Quelle prouesse.
Quelle patience.
Et quel super scénario. Moi, j'aime beaucoup ce genre de scénario. Vraiment, on se pose des questions, on se demande vraiment comment on va se débrouiller quand même pour vivre là-dedans.
Ah oui. Ouais. En fait, il faut être un petit peu innovant et surtout avoir des connaissances en navigation et en matière de survie.
Et surtout pour déjà, se chauffer.
Oui, je crois que c'est
parce que franchement, les pertes de calories, là, c'est fatal.
Ouais,
vraiment fatal, hein, dans ce cercle polaire ici. Et après, c'est se nourrir, déjà. C'est sûr que vas-tu manger?
Parce que tu as des vivres, mais pas forcément pour longtemps, donc c'est pas évident, surtout sur une île où t'as pas un arbre, t'as que dalle, quoi.
Voilà. Est-ce qu'ils traînent des coquillages? Est-ce qu'on peut choper du poisson?
Ouais.
C'est vraiment une gageure. Et puis surtout, c'est comment on va se développer ton instinct de survie? Est-ce que ça va durer? Est-ce que tu vas pas tomber malade? Parce que voilà, c'est un cauchemar. Hein.
Ouais.
Donc voilà, je trouve que c'est un excellent sujet.
Alors, on en parlait tout à l'heure hors antenne. La musique a été signée par le mari de l'actrice qui s'appelle Raphaël. En fait, c'est lui qui a donc signé la musique de ce film-là, tout d'un seul. Et on parlait effectivement d'un film où il y a un dialogue entre deux acteurs. Je me souviens aussi d'un très bon film, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est un film avec Robert Redford qui est sorti en 2013, ça s'appelle Tout est perdu, All is Lost, où il se retrouve sur un bateau seul et il traverse la mer du Québec et évidemment il percute un conteneur au large des côtes et là c'est voilà, il n'y a pas un dialogue. En fait, il est tout seul du début jusqu'à la fin du film. C'est un excellent film sur la survie également et sur la navigation. Et c'est, voilà, ça me fait penser un petit peu à ça.
Je l'ai pas vu. Il parle pas du tout pendant le film.
Non, parce qu'il est seul sur le bateau.
Ah oui, d'accord. Oui, mais il est aux antipodes alors du film avec Tom Hanks, qui lui a se créer un dialogue pour pas devenir fou.
Il cherche un ballon. C'est Wilson.
Oui, c'est Wilson, exactement. Qui disparaît à la fin. Wilson disparaît.
Donc en quoi? Si vous faites de la navigation, partez avec un ballon.
Oui, mais ça fait penser aussi à un grand marin dont le nom m'échappe, hein, qui m'a carrément épaté. Alors lui, il avait de solides, on va dire, compétences en ingénierie. Il a cassé son mât, il a carrément dématé. Et il s'est volontairement échoué sur une île pour réparer son mât.
C'est pas Alain Colas?
Je sais plus, il a ressoudé son mât, le gars.
Alain Colas avait disparu en mer, mais on pensait à une avarie, le Manureva. Qui fin des années 70 n'a jamais été retrouvé.
D'accord. Mais lui est rentré vivant. Il a réussi à ressouder son mât. Non, mais attends, un mât de bateau. Je ne sais pas comment.
Pas de Carsozon.
T'imagines un petit peu la prouesse quand même.
Un navigateur connu.
Je ne sais plus.
Pas de Carsozon.
Et quand il a dit qu'il avait créé, il avait réussi à positionner son mât, faire un petit four, faire monter les calories, les machins, les trucs, tout ressouder. C'est là, mon Dieu, c'est dingue ça. Et oui, comme quoi, il faut avoir quand même de solides compétences. Et au niveau de la bouffe, il était sur un banc de moules, donc il s'est envoyé du crustacé, du mollusque. Il a réussi à survivre, mais c'est la soudure du mât. Quand il a raconté son histoire, mais franchement, j'ai eu la mâchoire qui s'est décrochée parce que déjà, comment le soulever, comment le positionner, créer le four. Et il fait des petits calculs, tout ça. Et puis il disait, ouais, c'est sa formation d'ingénieur qui l'a sauvé là-dessus. Hein. C'est faut quand même avoir quelques petites notions là-dessus. Quoi. Et voilà, moi, je lui tire mon chapeau. Et il est rentré avec son bateau. C'est ça qui est marrant. Il est vraiment rentré avec son bateau.
Ouais. On va justement partager ensemble un extrait de ce film Sous d'un seul sur Radio Grande Terre.
Allô? Allô, est-ce que quelqu'un m'entend?
Beauté de l'île, quoi.
On est au bout du monde.
T'as l'impression que tu bouches la vue, là?
Ah oui. Ouais, ça va vers nous.
Le bateau est plus là. On fait comment sans bateau? Tu m'écoutes, là, je te parle!
Je sais pas ce qu'on va faire, voilà!
Juste tenir, quoi.
Alors, on est quel jour?
Je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas compté. Ben, il faut qu'on se barre d'ici. Tout le monde se trouve à moi maintenant.
Plus rien qui peut la séparer.
J'arrive pas à vivre sans toi.
Voilà, donc on va prendre la mer, partez couvert, hein, surtout, hein, c'est important. Sous d'un seul.
Oui, c'est un milieu hostile.
Ouais.
C'est super hostile. Mais même les navigations côtières, c'est pas toujours des parties de plaisir. Hein. Mm-hmm. Moi, je sais que ma première traversée du golfe de Gascogne, on a fait La Rochelle, Andaille, aller-retour, hein, avec une petite escale à Arcachon. On s'est tout chopé. La tempête.
Ouais.
La tempête, hein. Vraiment un truc de fou, hein, où j'ai cru mourir. Et ce qu'on appelle pétole aussi. Pétole, chez les marins, c'est la mer d'huile. Tu sais, en fait, t'es pris entre deux dépressions, il n'y a plus un souffle d'air. Et quand je dis plus un souffle, c'est plus un souffle. Hein. Et là, t'es à l'arrêt total. Et là, tu commences vraiment à regarder les réserves de flotte. Et oui, parce que ça, C'est vraiment étrange. Hein. Voilà, il faut vraiment être chevronné tout ça pour faire. Moi j'étais avec un marin, donc. Mais même, t'étais pas bien quand même. Et puis, je veux dire, passer toute une nuit penché sur ta table de cartes et essayer de regarder un petit peu ta trajectoire, alors que t'as le vent qui souffle tranquillement. On en avait des hublots dans la flotte. Ouais. Tu vois, les hublots, ils étaient dans la mer et on voyait dessous, sous l'eau. C'était une horreur. Je m'en souviens encore. C'était un vrai cauchemar. Et cette nuit-là, je m'étais préparé à mourir. Ah oui, parce qu'on s'est chopé, je sais plus combien, force 10. Force 10, quoi. Donc voilà, non, c'est hostile. Et voilà, mais je pense que ça va être un super film. Voilà. Soudain Seul, moi je pense. Hein.
Soudain Seul, d'après
très bonne expérience,
le
très bon scénario.
D'après le roman d'Isabelle Autissier, hein, c'est petit inspiré du roman d'Isabelle Autissier.
Une grande navigatrice. Très grande navigatrice. Ouais. Et oui.
Il faut avoir un mental. L'École nationale supérieure d'agronomique de Rennes, ouais. Donc en fait, ouais.
Oui, il faut avoir un mental en acier trempé.
Ouais.
Ouais.
Il faut aimer la solitude aussi.
Il faut aimer le challenge, il faut aimer la solitude. Mais après, c'est une drogue hein, pour les marins. Moi, j'ai discuté avec plein de marins, des vrais. Hein, c'est une drogue. Le large, c'est une drogue. Hein, c'est-à-dire se défaire un petit peu de la terre, de loin, du monde des hommes. Et se recentrer sur soi-même et tout, c'est une drogue chez les marins. Ça, ils en ont besoin. Hein. Ils adorent rentrer, mais ils adorent partir aussi. Hein. Et les deux.
Ça me rappelle aussi le film En pleine tempête, hein, avec Georges Clooney.
Excellent.
Les marins pêcheurs, là.
Les marins pêcheurs, les gars qui traquent le thon.
Oui, c'est ça.
Il va trop loin. Il va beaucoup trop loin. Je l'ai revu il n'y a pas très très longtemps.
C'est pareil, on est pris dans le film.
Il est pris dedans, il est très très bien fait. Et puis, la vague finale, elle est vraiment. C'est une horreur.
Ouais.
C'est une horreur. Et grands acteurs dedans. Il y avait vachement. Très grand Georges Clooney dedans.
Soudain Seul, à ne pas manquer cette semaine à La Brèche.
À découvrir à La Brèche, venez le voir. Hein.
La quatrième sélection de la semaine, c'est La Chimère. Alors là aussi, on en parle beaucoup.
Alors La Chimère, oui, le dernier film donc, d'Alice Rohrwacher, un film italo-franco-suisse de 2h10. C'est une comédie dramatique. Hein. Au niveau des acteurs, on va retrouver Josh O'Connor, Carol Duarte, Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher, Vincenzo Nemolato, après il n'y a que des Italiens, Giuliano Montorami, Melchior Pala, Gian Piero Capretto. Alors chacun poursuit sa chimère sans jamais parvenir à la saisir. Pour certains c'est un rêve d'argent facile, pour d'autres la quête d'un amour passé. De retour dans sa petite ville du bord de mer tyrrhénienne, Arthur retrouve sa bande de tombarilli, des pilleurs de tombes étrusques et de merveilles archéologiques. Arthur a un don qu'il met au service de ses amis brigands. Il ressent le vide de la terre dans lequel se trouvent les vestiges d'un monde passé, le même vide qui a laissé en lui le souvenir de son amour perdu, nommé Benjamin. Alors les merveilles, heureux comme Lazzaro et la chimère, tournent tous trois autour de cette question. Que faire du passé ? Même si Alice Rohrwacher n'a pas pensé ces trois films comme une trilogie, une résonance opère entre eux. Les merveilles, c'est nourri de mon vécu. Comme elle nous dit, le film commence par la réplique « Regarde la maison là-bas ». Elle a toujours été là. Malgré tout, j'ai grandi avec la sensation d'un vide autour de moi. Je voulais connaître les vies qui avaient habité cet endroit avant moi et j'ai travaillé autour de cette idée. Pourquoi ces lieux qui m'entouraient ont-ils été abandonnés ? J'ai dès lors commencé à collecter des informations sur les paysans qui vivaient dans ma région. Ainsi est né Heureux comme un Lazzaro. Quand j'étais petite, j'entendais dans les bars et ailleurs les tombaroli. Donc raconter, donc avec emphase ce qu'ils avaient trouvé dans des tombes étrusques pendant la nuit. Ces hommes pouvaient interpréter le paysage d'une manière particulière. Ils savaient localiser les tombes à la simple observation d'une herbe bien précise. Lisaient le paysage comme personne d'autre. La chimère doit ainsi avoir l'empreinte, non pas de ma vie, mais d'une culture, confie la cinéaste. Alors le récit de Chimère se déroule dans les années 80, mais ce pillage des ressources dont il est question fait écho à la crise sociale, économique et écologique actuelle. La réalisatrice, donc Alice Rohrwacher, explique « L'histoire de la contrebande archéologique débute dans les années 80. Au départ, elle était pratiquée par des étrangers détachés de la culture italienne qui venaient piller des tombes étrusques pour vendre leur butin au musée. Dans les années 70-80, c'est devenu une pratique populaire, un acte de révolte qui exprime aussi la perte de foi dans le sacré. Cela est concomitant à l'essor de la société de consommation où la valeur argent a pris la place du sacré et changé la face du monde. Cette situation est équivalente à ce que l'humanité qui se sent le droit de disposer de toutes les ressources naturelles de la Terre. Les tombaroli ont quelque chose d'amusant. Ce sont des compagnons. Mais ce qu'ils font est terrible, comme l'est le pillage des richesses terrestres. C'est pourquoi je les filme au pied d'une centrale à charbon au bord de la mer où l'on jette toutes sortes de déchets. Que signifie profaner dans un monde déjà profané? Donc La Chimère est un film qui tourne autour de l'archéologie. Alice Rohrwacher voulait donc qu'on y trouve quelque chose de l'ordre de l'histoire du cinéma. D'où l'usage du Super 16 qui est un support agile et narratif. Celui du 35 mm qui évoque la contemplation de la part picturale et la part picturale que peut offrir le cinéma. Ou celui du 16 mm qui donne la sensation de voir une écriture manuscrite sur la page d'un livre. Et comme elle nous dit, je voulais jouer avec ces différentes textures tant que les pellicules sont accessibles, comme si ce film pouvait aussi en être le témoin, précise la cinéaste. Donc on va plonger vraiment dans un drôle d'univers, celui des, des pierres de tombe. Alors les pierres de tombe, ça existe depuis toujours. Faut savoir une chose, on regarde un petit peu au niveau de l'Égypte. Dès l'Antiquité, les tombes égyptiennes étaient pillées. Alors évidemment, en Italie, qui regorge, on va dire, d'histoire et de sites archéologiques, ben évidemment, oui, ça a toujours été... un petit peu ça, quoi. C'est vrai que il raconte pas de bêtises quand il disait que les gens étaient capables de lire le sol et de retrouver des sanctuaires ou des nécropoles étrusques. Et sachant qu'en plus que la statuaire étrusque vaut une fortune sur le marché de la contrebande. Parce que c'est quand même une civilisation très très particulière de l'Italie. Ouais. Hein.
La Chimère, donc.
La Chimère.
À voir cette semaine à la Brèche. On vous recommande, hein. C'est plutôt sympa. Et évidemment, on va revenir à un hommage hein, que tu avais évoqué en début d'émission. Il nous a quitté il y a quelques jours. C'est Guy Marchand. On le connaît acteur, on le connaît musicien, on le connaît aussi crooner. Voilà, donc un artiste qui s'en va.
Voilà, et surtout, il faisait plein d'autres choses à côté. Il était musicien, écrivain, il faisait plein d'autres choses. Hein. Et puis il a avoué à la fin. Donc il a fini à Cavaillon, dans la ville de Cavaillon, là-bas, dans le sud-est de la France. Ruiné.
Ah ouais,
j'ai fini ruiné, oui. Donc l'agence France Presse donc, a annoncé donc, le décès de l'acteur et chanteur Guy Marchand donc, à 86 ans. Et il avait remporté le César du meilleur second rôle dans Garde à vue.
Absolument, avec Serrault et Lino Ventura.
Et il avait marqué les téléspectateurs avec son rôle de détective privé dans...
Nestor Burma.
Nestor Burma, exactement. On avait aussi pu entendre sa chanson donc, Destinée, composée par Vladimir Cosma. Dans Les Sous-doués en vacances.
Ouais.
Et le Père Noël est une ordure.
Ah oui, effectivement.
Oui, parce que moi, je me souvenais de cette scène-là. Mm-hmm. Quand un clavier qui travestit, tu vois.
En Père Noël
Non, c'est génial, toi.
Oui, génial, oui, en Père Noël.
Il est en travelot, en fait.
Oui, c'est vrai. Oui.
Christian Clavier.
SOS Amitié.
Ouais, ouais, ouais. Il est dans les bureaux de SOS Amitié, dans lequel il s'invite. Et il danse avec Thierry Lhermitte.
Exact.
Et la scène est terrible.
Ouais.
Et il chante sur Destinée de Guy Marchand. Mais je savais pas. Par contre, Les Sous-doués en vacances, je m'en souvenais pas.
Si. C'était un producteur de musique dans le film et un petit peu roublard hein, dans Les Sous-doués.
D'accord.
Et effectivement, il voulait séduire une charmante étudiante.
D'accord.
Et, dans le cadre de ces soirées.
C'est le slow.
Le fameux slow Destinée.
Ouais, c'est le slow de l'été. Alors Destinée, j'avais entendu Guy Marchand dire que c'est une grosse bouffonnerie en fait.
Ah oui,
je veux
oui.
dire, c'est une grosse plaisanterie.
Marché, hein.
C'est une grosse plaisanterie qui s'est vendue à des centaines de milliers d'exemplaires, paraît-il, hein, cet été-là. Quoi. Et oui, parce qu'à l'époque, c'était des 45 tours qui sortaient comme ça. C'était assez fugace. Hein.
Ouais.
C'était ce qu'on disait avant, le tube de l'été.
Mm-hmm.
Donc ça passait à la radio, on va dire, sur deux mois, trois mois, et puis après ça s'arrêtait. Quoi. Donc, issu d'un milieu modeste, Guy Marchand se tourne très vite vers la musique en apprenant, tu vas voir, en autodidacte, la clarinette, qui est déjà un instrument bien compliqué.
Ah ouais.
Il tente d'abord une carrière dans la Légion étrangère après avoir passé toute son enfance à Paris. C'est d'ailleurs en tant que conseiller, qu'officier parachutiste, qu'il intégrera, tu vas voir, le casting et l'équipe technique du jour le plus long en 62.
Je ne savais pas ça.
T'as vu quand même, il a des compétences en parachutisme. Il devient par la suite compositeur, puis décide d'interpréter sa chanson « La Passionata ».
Exact.
C'est un grand succès en 65.
Moi, c'était une version tango.
Ouais, c'est ça. Il t'habille en espagnol.
Exactement.
Ouais,
c'est un classique, enfin, un titre connu, hein, argentin.
Moi, je le voyais. Voilà, ouais. Ouais, ça se ressemblait à ça. Et moi, je ne le voyais pas en 65, le tube. Je le voyais bien plus tard. Donc, il fait ses véritables débuts au cinéma en 71 dans Le Boulevard du Rhum de Robert Enrico. Premier rôle qui lui permet de jouer aux côtés de Brigitte Bardot et Lino Ventura. Tu vois, déjà, il commence vraiment avec des grands, des monstres du cinéma. Hein. Il enchaîne avec Une belle fille comme moi de François Truffaut en 72. mais c'est l'énorme succès de Cousin-Cousine de Jean-Charles Takéla qui le rend célèbre par le réalisme de son personnage et qui lui vaut l'étiquette de Latin Lover et de Crooner à cause de sa voix. Il réussit cependant à casser cette image en multipliant d'abord les personnages d'hommes ordinaires, comme dans Policier sans histoire dans Tendre Poulet en 77, ou publicitaire trompé par sa femme dans Loulou en 80. Cette même année, le comédien Sinos dans Nestor Burma, détective de choc, accompagnant le détective privé incarné par Michel Serrault. Joli signe du destin, il se glissera donc près de 10 ans plus tard et sur petit écran dans le costume du personnage. Donc son rôle important dans Les Soudoués en vacances en 82 et son interprétation de la chanson donc Destinée le ramène un temps à son personnage de crooner mais avec à la clé un grand succès, au point que le titre est aussi entendu la même année dans Le Père Noël est une ordure. Et oui, comme vous l'entendez actuellement, c'est trop bon. C'est du tango argentin. Donc il se délecte cependant de second rôle de salaud. Il est tour à tour un militaire raciste dans Coup de torchon, grand film de Tavernier en 81, auprès de Philippe Noiret. Un inspecteur violent dans Garde à vue en 81, qui lui vaut le César du meilleur second rôle. Un criminel dans Mortel randonnée en 83. Un voleur dans Conseil de famille en 86. Un garagiste âpre au gain dans L'été en pente douce, de Gérard Kravzik, grand film de 1987. Moi, c'est un de mes préférés, j'adore ce film-là. Ou encore un film véreux dans Ripoux contre Ripoux en 89.
Un très bon film aussi.
Hein. Et oui. Ouais. Donc, à partir de Nestor Burma, évidemment, Guy Marchand se fait beaucoup plus rare au cinéma à partir des années 90, durant lesquelles il se consacre à nouveau à la musique et à la télévision. Donc, c'est là où il tourne sa série, donc Nestor Burma. Il s'installe dans le Luberon et élève depuis des chevaux, grâce auxquels il monte la première équipe féminine du monde de polo, El Gaucho Polo Club. Sur petit écran, il s'y distingue notamment en incarnant le détective privé Nestor Burma dans la série du même nom, après avoir été l'adjoint de son prédécesseur, donc Michel Serrault. En 2006, il revient vers le cinéma avec Le Dans Paris de Christophe Honoré. Un an plus tard, il est à l'affiche du drame Après lui de Gaël Morel. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il est aussi évidemment un écrivain, hein, et en 2007, il publie son autobiographie du nom de Le Guignol des buts de Chaumont. Et se lance alors dans l'écriture de romans. Et il publie ainsi donc Un rasoir dans la main d'un singe en 2008 et Le soleil des enfants perdus, qui remportera donc le prix Jean Noël en 2012. Comme quoi, hein, il n'est pas bon chaud dans tout ce qu'il fait, Guy Marchand. Donc sa carrière cinématographique s'en trouve du coup ralentie, bien qu'on le retrouve par la suite dans quelques seconds rôles qu'il affectionne, notamment dans Passe-Passe en 2008 de Tony Marshall. Il s'illustre aussi en 2010 dans un premier rôle inattendu et très dramatique dans le film historique L'arbre et la forêt d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Il faut ensuite attendre 2014 pour le voir réapparaître au cinéma en tête d'affiche de Calomnie de Jean-Pierre Mocky, ainsi que dans L'art de la fugue de Brice Covin. Père de Ramzy dans l'original Hibou, Guy Marchand apparaît dans la comédie dramatique Au témoin d'un doute et la comédie Le Doudou, où il goûte aussi aux séries avec Prière d'enquêter et 10%. Puis il joue un personnage central dans deux téléfilms dramatiques traitant d'un sujet grave, Illégitime et La dernière partie. En 2022, l'acteur de 85 ans retourne à la comédie avec Les Folies fermières portées par le très à la mode Alban Ivanov et apparaît pour la dernière fois au cinéma dans La plus belle pour aller danser en 2023. Effectivement, c'est vrai qu'il a retourné quand même très tard. Et c'est vrai que Les Folies fermières, on en avait parlé, tu te souviens ça?
Absolument, ouais.
Ces fermiers là, du Massif Central qui veulent faire un cabaret dans la grange.
Oui, qui est une histoire vraie. Hein.
Effectivement, c'est tiré d'une histoire vraie, oui. Guy Marchand jouait, j'avais oublié ce film-là. Et voilà, d'Alban Ivanov. Et voilà, Guy Marchand. Mais Guy Marchand nous a quittés. Mais c'était un drôle de bonhomme, un touche-à-tout.
Ouais.
Pour moi, c'est un grand artiste qui voilà, multifacette. Et même s'il a fini ruiné, comme il disait, à la fin de sa carrière, ben, il aura eu une carrière quand même bien remplie. Et vraiment, il a vraiment toute mon admiration.
Absolument. Merci pour cet hommage, Pascal, à Guy Marchand. C'est important.
Ouais.
Et on va clôturer cette émission par un autre hommage. C'est l'actrice Mélanie Thierry qui crève l'écran aussi, hein, qui est bien vivante aussi. Voilà, on la trouve sur un bateau hein, cette semaine dans Soudain Seul, hein, un film avec Gilles Lelouch, un très très bon film.
Absolument. Alors Mélanie Thierry, donc elle est née le 17 juillet 81. Saint-Germain-en-Laye, c'est une jeune fille de 42 ans, alors on la verra dans
Au revoir Paris.
Dans plusieurs films.
Non, effectivement. Oui.
Oui, oui, alors c'est 27 années de carrière, 46 films déjà, hein, 6 séries, 11 nominations, 5 récompenses. Hein, donc j'ai pas énuméré tous ces films, il a commencé en 86 dans la série Docteur, Docteur Sylvestre, en saison 2. Oui, il a commencé par des séries, Mélanie Thierry. Hein. On la verra dans Argo Winch en 2008, de Jérôme Salles. On le verra en 2009 aussi, un très beau film de Philippe Godot, Le Dernier pour la route. Un film sur l'alcoolisme. On la verra aussi dans le film de Tavernier, La princesse de Montpensier, donc en 2010. On la verra aussi, on la croisera, elle était super, aussi en 2017, dans le film d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut.
Ouais.
Et on l'a vu aussi il n'y a pas très longtemps, en 2021, dans Tralala de Mathieu Amalric, un film qui n'a pas trop marché. Hein. Et on la verra aussi, on la voit en 2022, dans La vraie famille de Fabien Gorgeard, donc avec Lies Salem et Félix Moati. Hein. Alors, qui es-tu, Mélanie Thierry? Donc, la jeune Mélanie Thierry, qui ne correspond pourtant pas vraiment au standard du métier, parce qu'elle ne mesure que 1m60, embrasse très vite une carrière de mannequin. Sa candeur enfantine font ainsi le bonheur de nombreux magazines reconnus comme Elle ou Vogue. À 18 ans, en 1999, la jeune Française débute sur grand écran dans La légende du pianiste sur l'océan. Mais c'est en incarnant Esmeralda dans le Quasimodo d'El Paris de Patrick Timsit, c'est vrai que je l'avais oublié, elle était toute jeune, la même année, que cette blonde aux yeux bleus se fait connaître du grand public. Mélanie Thierry apparaît ensuite au générique de la comédie 15 août, où après Quasimodo d'El Paris, elle donne à nouveau la réplique à Richard Berry. La jeune femme se fait alors plus rare sur grand écran, préférant diversifier son travail. Elle joue aussi pour la télévision les séries Fêtes de famille et Merci les enfants font bien en 2005. Ou sur les planches avec une impressionnante prestation dans la pièce Le vieux juif blonde, donc en 2006. Au cinéma, elle s'illustre notamment dans les longs métrages Jojo la frite en 2002 et Pardonnez-moi en 2006. Si Mélanie apparaît à la une des journaux People en tant que la compagne du chanteur Raphaël, comme tu nous disais tout à l'heure, hein, dont elle est la vedette du clip Caravane.
Absolument.
Elle est loin de sacrifier sa carrière à l'amour. En 2007, elle joue dans le thriller Chrysalis. À la fin de cette même année, elle apparaît dans l'ambitieux film de science-fiction Babylon AD de Mathieu Kassovitz, qui n'a pas marché du tout, hein, où elle côtoie Vin Diesel. Mais c'est dans le dernier pour la route, aux côtés de François Cluzet, que sa carrière prend un tournant. Sa performance est récompensée par le César du meilleur espoir féminin en 2010. Par la suite, elle interprète l'inaccessible Charlotte Dérive de L'Autre Dumas, avant d'incarner la princesse de Montpensier pour Bertrand Tavernier. Autre grande figure du cinéma français, André Téchiné la place aux côtés d'André Dussolier et de Carole Bouquet dans Impardonnable. Incarcérée dans le drame Omblin, elle donne la réplique à Jean-Hugues Anglade dans le thriller L'Autre Vie de Richard.
Excellent Kahn. Film.
Tu l'as vu celui-ci?
Absolument, le film de Germinal Alvarez qui est sorti en 2012. Un excellent film où effectivement on la voit rencontrer Jean-Hugues Anglade qui est un commandant de police et qui enquête sur des meurtres. Ça se passe sur La Rochelle et l'île de Ré en fait. Ah. On reconnaît bien les lieux. Et il y a une deuxième vie parallèle en fait, il tombe à l'eau, il s'assomme en tombant et il remonte le temps en
D'accord.
fait. Il se voit double en fait, lui quand il était beaucoup plus jeune, quand il commençait sa carrière dans la police, c'était assez, ce monde parallèle, hein, assez intéressant.
D'accord, je ne l'ai pas vu ce film-là. Donc retrouvant une fois de plus Nicolas Duvauchel dans Je ne suis pas un salaud, Mélanie Thierry poursuit sa carrière internationale avec Un jour comme un autre aux côtés de Benicio del Toro et Tim Robbins. Elle aura quand même tourné avec des grands acteurs. Hein.
Oui.
En 2018, on la voit dans La douleur d'Emmanuel Finkiel où elle joue ni plus ni moins que Marguerite Duras, mais aussi Le vent tourne, drame passionnel rural où elle campe une jeune paysanne dont l'existence est bouleversée par l'arrivée d'un étranger venu installer une éolienne sur ses terres. Elle poursuit avec le burlesque Tralala aux côtés de Mathieu Amalric. Privilégiant les rôles exigeants dans des drames, Mélanie joue la mère dans le bouleversant imprimé, La vraie famille, et la compagne de Swad Arlo dans L'établi, centré sur le monde ouvrier de la fin des années 60. La comédienne goûte ensuite à l'aventure avec Soudain Seul, qui la voit tenter de survivre aux côtés de Gilles Lelouch sur une île sauvage. Dans le film que j'ai présenté tout à l'heure et que je vous recommande vivement de venir découvrir à la brèche cette semaine, ainsi... Et la carrière, pour l'instant, de Mélanie Thierry, qui est loin d'être terminée. On lui souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Hein.
Mmh. On le reste souvent dans les films assez forts. Hein. C'est vrai, des rôles assez forts. Merci Pascal pour cette présentation au marathon. Et puis, évidemment, on aura beaucoup de choix cette semaine à la Brèche.
À la Brèche, bien sûr, il y a bien d'autres films.
Du réveillon Noël. Vous serez ouvert, non pas le jour de Noël, évidemment.
Mais c'est bien sûr que oui, monsieur. Ah, mais oui, tous les cinémas de France et de Navarre sont ouverts le jour de Noël.
C'est bon, ça, bien sûr.
Oui, mais les horaires sont un petit peu aménagés.
D'accord.
Tu vois, on finit, je crois que sur le coup des 18h au 20h, le 24, et puis le 25, oui, bien sûr, oui, on ouvre.
Très bien.
Oui.
Ça sera l'occasion d'aller faire un petit tour.
Absolument.
Au cinéma La Brèche.
On est là pour vous accueillir.
Eh bien, Pascal, je te laisse le mot de la fin.
Eh bien, prenez soin des vôtres. Regardez-moi la télé, écoutez Radio Grand Air et venez nous voir au cinéma. Venez voir Soudain Seul, venez voir tous ces films-là. Et puis, venez prendre du bon temps. Venez rire avec Jeff Panaclock aussi. Il est là pour ça aussi. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. À très bientôt.
Et joyeux Noël.
Et joyeux Noël à tous.